Voilà, très content d'être avec vous ce matin, encore pour ce quatrième dimanche de l'Avent. C'est toujours une joie de se rencontrer. Frères et sœurs, j'ai un défaut. Oui, j'entends qu'ils disent « t'en as qu'un ». Demandez à ma femme, elle va me rectifier. Voilà, j'ai un défaut. Quand j'ai l'occasion de partager la parole lors d'une fête, que ce soit Pâques, Pentecôte, tout ça, j'aime revenir sur les fêtes. Quelqu'un m'a dit, oh, c'est pas la peine, on sait tout ça. Mais j'aime revenir sur les fêtes, parce que ça se perd. Parce que notre peuple ne sait même plus la signification des fêtes. Tout s'efface. Et je crois qu'en tant que chrétien, il y a toujours quelque chose pour nous à tirer de ces fêtes, toujours un encouragement, toujours quelque chose à partager. Et comme Albert le disait, ces personnes qui viennent sensibiliser par Noël, il y a un témoignage. Constamment, on peut rendre témoignage et revenir à la vraie signification des choses. Et avec vous, ce matin, j'aimerais revenir sur cette fête de Noël par un texte que vous connaissez bien tous dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2 et à partir du verset 21, où il nous est dit que le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et là, nous sommes une quarantaine de jours après la naissance. Ils se rendent au temple, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant en Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contestation et la contradiction. » Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. J'aimerais m'arrêter sur deux choses ce matin avec vous. Il y a tellement de choses, ce texte est tellement riche, mais m'arrêter sur deux choses. Siméon, prophétise et dit que cet enfant, au verset 34, cet enfant va devenir un signe qui provoquera la contradiction. Noël, une histoire d'enfant. Nous sommes à Noël, le 25 décembre, l'année présumée de sa naissance. Noël regroupe trois fêtes. Trois fêtes des Lumières. Aujourd'hui, nos amis juifs commencent leur fête d'Hanouka, la fête des Lumières. il y a tout un historique très intéressant sur la fête d'Hanouka. Et aujourd'hui, pendant 8 jours, nos amis juifs vont fêter cette fête de la lumière, Hanouka. D'autres, dans le monde païen, vont fêter ce qu'ils appellent la fête du soleil invincible, le nouveau solstice d'hiver, fête de la lumière, où les jours ragrandissent, et puis la fête de la naissance de Jésus, la lumière du monde. 3 fêtes de la lumière dans ce même mois de décembre. Que cache finalement Noël ? Que cache Noël ? Quel est le rôle de la religion et de l'idolâtrie mêlées ensemble ? Ce rôle de la religion et de l'idolâtrie est très intéressant à étudier dans tout ce qui s'est joué dans la Rome antique. La Rome antique, pas le romantique, hein ? La Rome antique. Les Romains, dans ce mois de décembre, fêtaient ce qu'on appelle les Saturnales. C'était une fête où on fêtait ce solstice d'hiver, la naissance du soleil invincible. Et on adorait ce soleil invincible. Une idolâtrie incroyable où il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Pendant 3 jours, à un moment donné, cette fête avait pris tellement d'ampleur que Auguste avait décrété 3 jours fériés. Et tout était fermé. Les tribunaux, les écoles, tout était fermé. Et on fêtait cette fête de la lumière. Et on se prosternait et ça terminait dans des choses assez innommables. Mais on décorait les maisons, on se faisait des cadeaux. Pendant 1 jour, les esclaves devenaient libres. 1 jour. Le lendemain, ils retournaient à leur labeur. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Et à un moment donné, est venu s'ajouter à cette fête de la lumière des Saturnales le culte de Mithra. Mithra, qui était un dieu qui venait de... qui était un dieu indo-iranien. Et les légions romaines, en étant en mission dans ces pays-là, ont ramené le culte de Mithra à Rome. Et ce culte de Mithra est devenu tellement fort dans cette société romaine que Mithra, c'était un dieu bienveillant, débonnaire et cruel à la fois, juste et cruel. C'était un dieu avec lequel on pouvait faire une alliance, on pouvait devenir ami. C'était un dieu de la lumière. Et les Romains faisaient de grands brasiers, il y avait des grands feux. Et on sacrifiait aussi des enfants pour être agréable à ce dieu. Et il y avait toutes sortes de rites. C'était un culte pratiqué en Asie mineure et qui a envahi toute la Mésopotamie déjà vers 1350 avant Jésus-Christ. C'est tous des rites qui venaient aussi de l'Égypte ancienne où on adorait ce dieu soleil, où là aussi on faisait des brasiers. Vous connaissez, si vous faites des mots fléchés, le dieu Ra, hein, qu'adoraient les Égyptiens. Et on retrouve les traces de ces rites égyptiens encore plus en avant, au temps de Nimrod, de la tour de Babel, où là encore, il y avait tous ces rites étaient regroupés. Babel était imprégné de ces rites, où là aussi on faisait des grands brasiers et où il y avait des grandes fournaises, où tous ceux qui étaient en opposition passaient dans les fournaises, et même les enfants passaient dans les fournaises pour être agréables à Dieu. C'était une opposition en réalité à Dieu. On retrouve ça dans, avec Nebuchadnezzar et Daniel dans cette fournaise ardente. Et tout au long des siècles, ces rites ont traversé les époques. C'est même arrivé en Israël, où même Israël a succombé à tous ces rites. Et Israël aussi a offert des enfants à un moment donné en sacrifice, juste en bas des murailles de Jérusalem, dans ce qu'on appelle la Géhenne. Tous ces rites étaient regroupés. Et l'ampleur de ce culte de Mithra dans tout l'Empire romain a pris une telle importance que Aurélien l'a déclaré religion d'État le 25 décembre 274. Et on a fêté cette fête du soleil invincible. Et le christianisme est venu s'assimiler à ces fêtes. Et en essayant de christianiser ce monde romain, c'était parti d'une bonne intention au départ, d'une bonne intention. Mais finalement, le pape Libère, en l'année 354, a officialisé le 25 décembre, fête de l'anniversaire de Jésus-Christ. Il y a eu un mélange extraordinaire qui s'est produit. Et ça a continué. Il y a eu le christianisme qui a essayé de percer dans toute l'Europe, et en même temps, il y a cette opposition qui a continué à s'exercer dans toute l'Europe. Ce qui fait que ça a pris de l'ampleur, ce culte de Mithra, chez les Celtes, avec le dieu Gargande. Ça a continué chez les Germains, avec le dieu Emquin. Ça a continué chez les Vikings, n'est-ce pas, Vérite, avec Odin. Et si vous allez en Suède pendant Noël, c'est magnifique, mais il y a toutes sortes de traditions qui se mélangent aussi au christianisme. Vous avez des petits lutins. Et ce dieu Odin, était un dieu pareil, débonnaire et cruel à la fois. Et il s'était allié avec Yul Unis, qui était un petit lutin qu'on voit partout, même dans nos magasins aujourd'hui. Et lui, Yul Unis, il était chargé de rassembler les enfants. Et si les enfants n'avaient pas été sages, alors ils étaient fouettés. Il y avait des grands feux, on pouvait même encore sacrifier les enfants. Et tout ça a continué et a rempli notre société. Et au IVe siècle, il y a eu toute une histoire avec l'évêque de Myre qui est devenu Saint Nicolas. Les enfants ont été concernés aussi. Et puis, les années ont passé et ces cultes ont continué à s'étendre. On ne sacrifie plus les enfants en les mettant dans une fournaise aujourd'hui. Mais voyez-vous, aux USA, un pasteur, Clark Moore, dans les années 1820, a écrit un poème sur Saint Nicolas, sur le mythe de Saint Nicolas. Et il l'a représenté comme un homme joufflu, avec une mitre sur la tête, avec une grande cape, on l'a habillé de fourrure, il portait une barbe, il avait un traîneau tiré avec des rênes. Et puis, l'histoire a continué à prendre de l'ampleur. Le 23 décembre 1823, le journal de New York, Sentinelle de la ville, a fait une effigie de Saint Nicolas. Et puis, ça a progressé. Le 3 janvier 1863, le caricaturiste Thomas Nest fait évoluer Yul Unis, ce petit lutin, et il va lui donner une forme qu'on connaît maintenant et qui s'appelle aux États-Unis Satan Claus, et qui pour nous va devenir le Père Noël. Et Satan Claus, il lui a fait habiter le pôle Nord, et c'est un peu le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Et en 1920, Coca-Cola, pour sa publicité, a pris cette effigie du Père Noël et envahi le monde sur ses bouteilles avec cette effigie du Père Noël. Et le Père Noël est devenu très, très, très populaire dans tous nos pays chrétiens. Et le 23 décembre 1951, un prêtre bourguignon a brûlé l'effigie du Père Noël sur la place de Dijon. Pourquoi je vous parle de tout ça? Le Père Noël est devenu très populaire en France avec cette chanson de Tino Rossi, « Petit Papa Noël ». Est-ce que c'est nécessaire de vous raconter tout ça? Frères et sœurs, on parle souvent de combat spirituel. On parle souvent de choses comme ça. Il y a une similitude entre Jésus et le Père Noël. Il n'y a rien d'innocent dans les choses spirituelles. Rien n'est innocent. Si tout ce que je viens de vous dire a traversé les siècles et là où nous en sommes aujourd'hui, quand on compare Jésus et le Père Noël, il y a des similitudes incroyables. Les deux, on ne sait pas à quelle heure ils viennent. Les deux, ils viennent comme un voleur dans la nuit. Les deux, on apprend aux enfants à le prier. On apprend aux enfants à prier Jésus, mais on apprend aussi aux enfants à prier le Père Noël. Ils sont les deux omniscients. Ils connaissent tout. Ils sont omniprésents. Il est partout dans la nuit du 25 décembre, ce Père Noël. Ils ont les deux une vie immortelle. Immortelle. Ils attirent les enfants à lui. Ils passent le Père Noël par la cheminée. Ce n'est pas innocent. C'est le Dieu du feu. Il représente le Dieu du feu qui a cheminé dans toutes les civilisations. Il présente en sa personne, tous les rythmes des cultes qui ont traversé les siècles. Je partageais avec un frère pasteur, on a vu sur Internet la nouvelle série de Noël de Disney. Et ils font un film en ce moment sur le Père Noël. Et on voit, il y a une petite vidéo, et on voit les enfants qui rentrent tout joyeux dans une salle. Et puis, tu as le Père Noël qui les regarde. Et puis, ils ont des cartes. Ils ont des cartes et ils ont des lettres sur ces petites cartes. Et ils se mettent en rang comme ça, tout joyeux, et ils chantent. Et sur ces cartes, on voit « I love you, Satan ». Ils chantent ça. « I love you, Satan ». Et les enfants sont très contents, ils chantent ça. « Je t'aime, Satan ». Et le Père Noël est là et il fait... Et les enfants réalisent qu'ils ont fait une erreur, c'était pas Satan, c'était Santa. Alors il fallait rechanger les lettres. Mais le fait est que la mélodie est dans les têtes des enfants. Dans les têtes des enfants. On ne rit pas avec ces choses-là. Et le commentaire nous dit que les défenseurs de la série affirment que la scène où les enfants tiennent les lettres et disent « I love you, Satan » est censé dire « I love you, Santa ». Et ce n'est qu'une des nombreuses scènes comiques du film. Les parents, eux, ne rient pas. Il n'y a rien d'innocent. Rien d'innocent. Je regardais sur le programme de Montbéliard, il y a tout le plan de la fête de Noël, et à un endroit, il y a marqué « Maison du Père Noël ». Et puis juste en dessous, au même endroit, « Village des enfants ».« Village des enfants ». Il sera un sujet qui provoquera la contestation. C'est Jésus qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ».« Laissez venir à moi les petits-enfants ». Mais ce Père Noël conteste à Jésus ce verset biblique. Et les enfants vont vers ce Père Noël. Ça nous paraît innocent, frères et sœurs. Mais quelle tromperie! Quelle tromperie! Vous savez, aussitôt qu'un libérateur envoyé par Dieu vient dans ce monde, ce sont les enfants qui trinquent les premiers. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Pharaon a fait tuer tous les enfants. Quand Jésus est venu, le libérateur par excellence, Hérode a envoyé ses soldats tuer les enfants à Bethléem. Aujourd'hui, on ne va pas les tuer physiquement. Mais regardez combien les enfants aujourd'hui sont des victimes de tous les mensonges de l'adversaire pour les détourner de Jésus-Christ. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois tous ces enfants trompés et ces parents dans la méconnaissance tromper leurs propres enfants. Il n'y a rien d'innocent. Rien d'innocent. Il y a une constance chez Dieu de venir nous chercher, de venir nous parler. Mais il y a aussi une constance chez l'adversaire de détourner les hommes de Jésus-Christ. Et tout est bon. Tout est bon. Et il y a un passage dans Éphésiens qui nous dit « Par la ruse des hommes, et par leur habileté de rendre l'erreur séduisante. » Séduisante. Et les enfants de ce monde sont les premières victimes depuis des siècles de l'opposition entre Christ et les puissances des ténèbres, frères et sœurs. Il amènera à Jésus contradiction, la contestation. La deuxième chose que j'aimerais retenir de ce texte avec vous ce matin, c'est cette phrase « Siméon attendait la consolation d'Israël ». Nous sommes dans le temps de l'Avent, nous sommes le quatrième dimanche de l'Avent, et l'Avent, c'est un temps d'attente, un temps de préparation à la venue de Jésus-Christ à Bethléem. Et Siméon, lui aussi, a vécu cette attente qui apportera la consolation, la consolation. Il nous est dit que Siméon était revêtu de l'Esprit et que l'Esprit l'avait averti qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'aura pas vu la venue du Seigneur. Alors, je ne sais pas combien de temps, peut-être que vous le savez, alors si vous le savez, vous allez me le dire, je ne sais pas combien de temps le Saint-Esprit l'avait averti. Est-ce que c'est 1 an, 10 ans, 20 ans? Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. J'ai l'impression que cet homme, c'était l'attente de toute une vie. De toute une vie. Il attendait cette consolation. Et malgré cette attente qui pouvait parfois être décourageante, il était resté juste et pieux, fidèle, fidèle. Siméon, un homme de l'Esprit. Siméon, conduit par l'Esprit. Et dans cette attente, un jour, comme les autres jours, rien de plus, rien de moins que les autres jours, un jour banal de sa vie. Et ce jour banal va devenir un jour tellement glorieux pour lui. Un jour où, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va le pousser à aller au temple. Et là, il va pouvoir prendre celui qui était l'objet de toute son attente, ce bébé, ce bébé. Quelle joie pour lui, quelle consolation où il pourra dire, maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Seigneur, tu peux me reprendre. Je peux partir en paix. Je peux partir en paix. Là, un homme de l'esprit, je peux partir en paix. Mes yeux ont vu ton salut. Il n'était pas le seul à attendre. Tout Israël attendait le Messie. Tout Israël. Et même au-delà, même cette femme samaritaine, quand Jésus a contact avec elle, elle lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. Et quand il viendra, il nous apprendra toutes choses. Mais quand est-ce qu'il viendra ? Mais je sais qu'il doit venir. » Mais elle ne savait pas quand. Albert nous disait tout à l'heure que quand nous sommes dans les difficultés, c'est long, c'est long. Et même le meilleur d'entre nous, Jean-Baptiste, il était là, le précurseur du Messie, il devait préparer le chemin. Et quand il s'est retrouvé dans sa prison, ce moment terrible pour lui, le doute est là, le doute est là. Est-ce bien lui qui devait venir ? Est-ce bien lui ? Est-ce bien lui ? Il y a aussi Joseph d'Arimathée, celui qui a décroché le corps du Seigneur. Il nous est dit deux fois dans les Évangiles, il attendait la venue du royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans l'attente de Noël 2022, mais nous ne sommes plus dans la première attente du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième attente du Seigneur. Nous sommes dans cette deuxième attente. Et il y a des similitudes entre ces deux venues du Seigneur. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que Dieu a instauré les fêtes, les sept fêtes de l'Éternel. Bien sûr qu'elles ont une dimension prophétique extraordinaire, ces sept fêtes. Mais elles ont des similitudes. Nous savons que les venues, ces similitudes, ces sept fêtes de l'Éternel, elles ont des précisions extraordinaires. Pour Pâques, le Seigneur avait dit le 10 du mois de Nissan, alors vous allez préparer l'agneau, vous allez choisir un agneau. Et le 14 Nissan, vous sacrifierez l'agneau. Et après Pâques, vous attendrez 49 jours et le 50e jour. Il y a des choses précises. Mais pour les deux fêtes les plus importantes qui ne sont pas des fêtes, les deux événements les plus importants, sa première venue et sa deuxième venue, il n'y a aucune précision. Aucune précision. Dans ces deux fêtes, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et on voyait que dans sa première venue, il l'attendait, mais il ne savait pas quand. Israël attendait le Messie, mais quand ? À quel jour, quel moment, personne ne savait. Il l'attendait, mais... Et la deuxième fête, sur ces deux fêtes, la première fête, on savait où il allait naître, Bethléem. On sait où il va revenir, à Jérusalem, et plus précisément sur le mont des Oliviers. Mais on ne sait ni le jour, ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure. J'ai vu qu'ils se lançaient, certaines personnes se lancent pour nous dire que Jésus va revenir en 2023. Formidable, c'est possible, ça y est, ça commence, les prévisions commencent. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais il revient. Et quand il reviendra, tout œil le verra. Là, on le saura, il n'y aura plus aucun doute, plus aucun doute. Mais pour nous, frères et sœurs, nous voulons nous réjouir dans l'attente dans laquelle nous sommes, de sa deuxième venue, de sa deuxième venue. Vous savez, nous vivons aujourd'hui entre ces deux venues, entre ces deux venues. Nous sommes dans « il est déjà là, mais il n'est pas encore là ». Il est déjà là parce qu'il est dans nos vies, mais il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Nous sommes dans cette espérance de son retour. Nous vivons entre ces deux venues. Et j'aime bien dans Sophonie, je regardais Sophonie, cette, cette semaine, à Sophonie, au chapitre 3, verset 8, il nous est dit « Attendez-moi, dit l'Éternel. Attendez-moi, dit l'Éternel, hein, au jour où je me lèverai pour le butin. Mais le jour où il reviendra, ce jour sera ténèbres et non lumière, Azazar. Ça sera un jour terrible quand il reviendra. Ça sera un jour terrible. Mais nous, en tant que chrétiens, nous vivons déjà le jour du Seigneur. Nous l'espérons. Et aujourd'hui, nous bénéficions de tous les bienfaits de sa première venue. Nous vivons en tant que chrétiens aujourd'hui dans le fait que nous sommes justifiés par son sang. Et ça nous donne de l'assurance. Nous sommes sauvés par lui de la colère à venir. Ce n'est pas rien, frères et sœurs. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et lors de sa première venue, nous bénéficions de tous ses bienfaits, Nous attendons sa bienheureuse espérance. Et dans Hébreux, dans Pierre nous dit, il nous est dit, Pierre nous parle des moqueurs. Vous savez, dans notre témoignage, quand nous témoignons à des gens, et si vous parlez de la deuxième venue de Jésus, quand vous dites « Jésus va revenir bientôt », vous avez affaire à quoi ? À des moqueurs. Ils nous rient au nez, ils nous charrient. Si vous dites à quelqu'un « Jésus va revenir bientôt », et c'est Pierre qui nous dit « Il y aura des moqueurs dans les derniers temps qui nous diront « Où est la promesse de son avènement ?» Où est la promesse de son avènement ? Tout reste dès le commencement. Où est son avènement ? Où est son avènement ? Mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Il va revenir. L'avant, dans ce temps d'attente, nous le vivons, frères et sœurs, nous vivons ce temps d'attente. Et vivre le temps d'attente, que Jésus va revenir, quand on vit et quand on y réfléchit, ça transforme nos vies. On ne vit pas pareil. Il va revenir. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais je ne sais pas non plus le jour ni l'heure de mon départ de cette terre. Même s'il revient dans 50 ans, 100 ans, moi, dans 100 ans, je ne serai plus là. Et vivre dans l'espérance de son retour, en sachant qu'il peut me reprendre à tout moment, parce que les années passent, je n'ai jamais été aussi proche de mon départ. Quand, j'en sais rien. Mais vivre dans cette attente. Et voyez-vous, frères et sœurs, Siméon est un exemple extraordinaire pour chacun d'entre nous. C'est un exemple extraordinaire. Siméon veut dire celui qui entend. Et Siméon était sensible à la voix de l'Esprit. Et Siméon m'enseigne, et quand je préparais ce message, je me dis, waouh, Seigneur, tu m'enseignes. Au travers de cet exemple de Siméon, je veux être vraiment comme lui, un homme de l'Esprit de Dieu. Un homme qui entend ce que l'Esprit dit aujourd'hui, pour moi-même, pour en aider d'autres. Siméon, il était revêtu de l'Esprit. Siméon était inspiré par l'Esprit. L'Esprit lui avait dit, tu ne mourras pas avant que. Siméon était conduit par l'Esprit. Maintenant, tu vas au temple. Je dis, oh Seigneur, quel exemple. Quel exemple dans cette attente de ton retour. Frères et sœurs, l'importance dans ces temps d'attente, du retour du Seigneur, d'être des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, d'être des hommes et des femmes inspirés par l'Esprit de Dieu, et être des hommes et des femmes conduits par l'Esprit de Dieu. Et j'ai regardé dans la parole cette semaine où il y a le mot « attente » dans la parole de Dieu. Et je vous ai simplement mis 12 versets pour nous encourager dans cette attente dans laquelle nous sommes, nous encourager et nous conseiller à comment agir, comment rester dans cette communion avec notre Seigneur. Et je vais vous les lire d'une traite, ça ne sera pas long. Je passe de Siméon en passant par Romain, en passant par Corinthiens, Galates, Philippiens, Thessaloniciens, Tite, Pierre et Jude. Et vous allez les reconnaître, vous qui êtes des habitués de la parole de Dieu. Mais que ce soit vraiment un encouragement à être des hommes, des femmes de l'Esprit de Dieu dans cette attente. Dans cette attente. Je pars de Siméon, où il nous a dit « Siméon, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation et l'Esprit était sur lui. » Romain, la création attend, elle aussi, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez ce que nous attendons ? Oh, c'est extraordinaire. En attendant la rédemption de notre corps, Romains encore, mais si nous espérons ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il ne nous manque aucun don, frères et sœurs, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que nous attendons par l'Esprit, comme Siméon. Nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Philippiens, mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Thessaloniciens, nous attendons des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Tite, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pierre, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Et Jude nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Oh, que de conseils dans cette attente, que de conseils. Mais je relevais dans Jude, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Vous édifiant vous-même. J'ai trouvé ça, ça m'a percuté parce que peut-être, frères et sœurs, qu'un jour, nous n'aurons plus d'église. Peut-être qu'un jour, la tension sera tellement forte dans ce monde que nous ne pourrons peut-être plus nous réunir comme nous nous réunissions aujourd'hui. Alors c'est important, comme Jude nous le dit, bien-aimés, édifiez-vous vous-même. 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 Sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, dans cette attente où la Bible finit par le Seigneur Jésus qui nous dit « Je viens bientôt, je viens bientôt ». Alors, comme Sophonie, où le Seigneur nous dit « Attendez-moi, dit l'Éternel, attendez-moi ». Dans ce temps de l'Avent, qui est sa deuxième venue, que nous attendons, nous ne l'attendons pas dans la passivité, frères et sœurs. Nous ne l'attendons pas dans la passivité, mais nous l'attendons dans le fait que nous partageons aussi cette espérance autour de nous. Nous bénéficions de toutes les grâces de sa première venue et nous allons profiter bientôt de tous les bienfaits de sa deuxième venue. Et j'aimerais terminer avec vous par une lettre. Par une lettre, quand je vois tout ce qui se fait aujourd'hui pour ces fêtes de Noël, je me dis que si Jésus envoyait une lettre à chaque foyer aujourd'hui, chaque foyer, qu'est-ce qu'il écrirait, Jésus ? Et puis j'ai trouvé cette lettre, alors je vais vous la lire. Je vais vous la lire. Je l'ai copiée, vous pouvez la lire. Dans vos lettres. Voilà. Si Jésus écrivait aujourd'hui à chaque foyer dans ce monde, il pourrait dire comme ceci. Chers amis, comme vous le savez, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande célébration en mon honneur. Et je pense que cette année encore, cette célébration aura lieu. Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux. Il y a plein de publicités à la radio, dans les magasins. Et tout cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire approche. C'est bien de savoir qu'au moins une fois par an, certaines personnes pensent à moi. Pourtant, je remarque que si au début, les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'avais fait pour eux, plus le temps passe, et moins il semble se rappeler la raison de cette célébration. Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête. Je me souviens, l'année dernière, il y avait un grand banquet en mon honneur. La table de la salle à manger était remplie de mets délicieux, des fruits, de chocolat. La décoration était superbe et il y avait plein de cadeaux emballés. Mais vous savez quoi ? Je n'étais pas invité. J'étais en théorie l'invité d'honneur, mais personne ne se rappelait de moi. La fête était en mon honneur, mais le jour de son arrivée, on m'a mis dehors et on m'a fermé la porte au nez. Et moi, je voulais simplement être avec eux et partager leur table. En réalité, je n'étais pas surpris, car depuis des années, toutes les portes se ferment devant moi. Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à cette fête, sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé. Tout le monde buvait, certains même étaient ivres. Ils se faisaient des farces les uns aux autres, ils riaient à propos de tout. Il passait, semble-t-il, un bon moment. Et pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, revêtu de longues robes rouges, et il riait sans arrêt. Ho, ho, ho ! Il s'est assis sur le sofa, et tous les enfants ont couru autour de lui, criant « Père Noël, Père Noël !» comme si la fête était en son honneur. À minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser. J'ai ouvert les bras, et j'ai attendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras et, vous savez quoi, personne n'est venu vers moi. Soudain, ils se sont mis à échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un avec une grande excitation. Et quand tout fut déballé, j'ai regardé pour voir si peut-être un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait des cadeaux et que vous n'en receliez aucun. J'ai compris que je n'étais pas désiré à cette soirée, et je suis parti silencieusement. Et tous les ans, ça empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu'ils ont bu, de ce qu'ils ont mangé, des cadeaux qu'ils ont reçus. Et personne ne pense à moi. J'aurais voulu, pour la fête de Noël de cette année, que vous me laissiez entrer dans votre vie. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous sauver. Aujourd'hui, je souhaiterais seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur. Nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à leur fête l'an dernier. Je vais cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. En guise de réponse positive à mon invitation, dites-le au plus grand nombre d'amis que vous connaissez. Je vous serai éternellement reconnaissant. Je vous aime très fort, Jésus. Que nous puissions cette année vivre le vrai Noël dans cette attente qui est aussi un temps de témoignage autour de nous et d'un temps d'attente de sa deuxième venue. Et que tout ceci puisse contribuer à transformer nos vies et à travailler à notre communion avec lui. Que son nom soit béni. Seigneur, merci. Merci parce que dès à présent, Seigneur, tu nous fais la grâce de vivre déjà tout ce que tu nous as acquis dans ta première venue. Seigneur, le pardon de notre péché. Seigneur, notre réconciliation avec notre Père céleste. Nous te devons toutes ces glorieuses choses. Mais Seigneur, tu nous prépares encore des choses tellement glorieuses que nous avons brièvement partagées ce matin. Seigneur, ça sera tellement glorieux. Nous t'attendons, Seigneur. Reviens bientôt dans ce monde, Seigneur, qui t'oublie, dans ce monde qui te conteste, dans ce monde qui veut t'oublier. Seigneur, tu reviens bientôt. Seigneur, garde-nous fidèles, Seigneur. Merci pour cet exemple de Siméon qui nous encourage, Seigneur, à persévérer et à désirer encore te connaître davantage. Seigneur, merci de ce que nous voulons vivre vraiment, un vrai Noël dans ta présence, dans ta communion. Seigneur, merci de bénir vraiment chacun de mes frères et sœurs dans ces fêtes de Noël. Seigneur, qu'il y ait des instants encore de témoignage, Seigneur, pour que tu puisses encore te révéler à plusieurs et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.